Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, je ne sais pas ce que vous faites quand vous tombez sur des généalogies dans la Bible, mais je doute quand même que vous restiez en extase devant les généalogies. Hein. Que l'on lise un tel a engendré un tel, et puis un tel a engendré un tel, et puis qu'on se dise, ah, qu'est-ce que c'était agréable de lire ces passages, hein. Le Seigneur m'a parlé à travers ça aujourd'hui. C'est vrai que le Seigneur parle à travers toute sa parole, mais je pense que quand on voit les généalogies, c'est plus difficile. On a plutôt tendance à les enjamber, hein, pour aller vite. Et il y en a beaucoup dans la Bible, hein, et donc on a parfois tendance à les enjamber pour passer vite. Mais depuis, j'ai lu que depuis quelques instants, les gens ont un attrait de plus en plus grand pour les généalogies, les arbres généalogiques. On entend beaucoup de gens, peut-être parfois aussi parmi les personnes qui ont eu une histoire particulière, il y a de plus en plus d'attrait pour retrouver quels sont nos ascendants dans l'arbre généalogique. En 2014, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un sondage sur OpinionWay qui disait que 70% des Français déclarent être intéressés par la recherche de leurs ascendants généalogiques. Et c'est surtout les retraités, hein, qui sont préoccupés par ça parce qu'ils ont beaucoup de temps, apparemment. Et donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, de savoir qui sont nos ancêtres, etc. Alors, on s'est posé la question, mais quelles sont les raisons à cela? Pour quelles raisons est-ce qu'on cherche à savoir de plus en plus qui sont nos ascendants? Bien, parfois, c'est simplement une quête d'identité. On veut savoir d'où on est, quels sont les gens qui ont constitué notre famille auparavant, connaître son passé familial, par exemple. Ou peut-être parfois aussi, j'ai lu qu'il s'agit de se trouver une histoire qui permet de se démarquer des autres, hein, des autres familles. Je viens de... Il y a eu ça, c'est particulièrement étrange, original, dans cette lignée-là. Et parfois même, certaines personnes font des recherches espérant trouver un lien de parenté avec une personnalité scientifique ou historique. Un grand personnage historique ou scientifique qui serait dans notre arbre généalogique, ce serait une manière pour nous de nous élever un peu. Et il paraît qu'il y a 57% des personnes font des recherches, avouent faire des recherches un petit peu dans ce sens-là. Et puis qu'à peu près une vingtaine espèrent être trouver un ancien, ce qu'on appelle les people, là, dans leur arbre généalogique. Alors je ne sais pas si vous faites des recherches de votre arbre généalogique, hein, peut-être qu'il y en a qui ont fait ça, hein. Qui essaie de savoir d'où ils viennent, je ne sais pas quelles sont vos motivations. Dans la Bible, il y en a beaucoup, en tout cas. Hein, et ce n'est pas toujours facile à lire. Alors, la question que je vous pose, selon vous, à quoi est-ce qu'elles servent? À quoi servent les généalogies, peut-être, dans la Bible? Est-ce que vous avez une petite pensée là-dessus? À quoi ça peut bien être utile? À garder une trace, oui. Montrer des accomplissements de promesses, oui, peut-être, certainement. Autre chose qui vient à l'esprit. Chaque fois que vous voyez les généalogies, vous faites pouf, pouf, vous sautez, vous continuez ou pas? On a envie de faire ça, parfois, mais bon. Surtout que les noms, ils sont imprononçables. Hein. Oui, non? D'autres choses? Pour remonter, ouais. Non mais je parle en général, les généalogies, toutes ne remontent pas jusqu'à Adam forcément, mais on a beaucoup de dénombrements dans la Bible par exemple, il y a beaucoup de dénombrements qui sont faits, dans la Bible aussi, quand on lit le livre des Nombres, les Chroniques, etc., et tout cela. Certes, bon, tout ce que vous avez dit, c'est certainement correct. Et quand on lit l'Écriture, on voit que dans les généalogies, il y a une importance, hein, puisque la Bible les cite. De toute façon, si la Bible cite, la Bible les donne, c'est parce que ça a une certaine importance. Alors, c'est quoi l'importance des généalogies dans l'histoire d'Israël? Si on lit l'histoire d'Israël, on trouve qu'il y a beaucoup de raisons à cela. Parfois, c'est pour prouver de quelle tribu on est. Hein, il fallait pouvoir prouver de quelle tribu on est, à qui on appartenait, surtout quand il fallait faire des répartitions, par exemple la répartition territoriale ou des choses comme ça. Et donc, telle tribu avait telle chose, donc pour pouvoir justifier qu'on était parfois descendant de telle tribu et qu'on avait tel droit à tel héritage, il fallait pouvoir prouver son arbre généalogique pour prétendre à la fonction sacerdotale, par exemple. Et vous avez une histoire qui est assez intéressante dans Esdras, chapitre 2. Je vais regarder ça. Esdras, chapitre 2. Si vous regardez, quelqu'un trouve, peut lire Esdras 2, 61 et 62. Esdras 2, 61, quelqu'un là? Et 62. Voilà. Vous voyez ici, hein, une famille qui revient de l'exil, qui prétendent avoir droit à la fonction sacerdotale, et on dit quels sont vos titres généalogiques. Prouvez que vous. Et donc, ils ne retrouvent pas leur titre généalogique, et donc, ils sont exclus. Ils ne peuvent pas prétendre, ils ne peuvent pas, même s'ils avaient droit, effectivement, parce qu'ils sont vraiment descendants, mais le fait de ne pas pouvoir le prouver les excluait de cela. Vous voyez déjà, là, on a du mal à lire les noms. Hein, quand il y en a beaucoup, hein, ça coince. Hein, on ralentit beaucoup dans ces lectures-là. Donc, il y avait, on pourrait dire, en lisant les Écritures, que on voit que les Juifs étaient fortement attachés aux généalogies. Hein, même l'apôtre Paul, il dit, moi, de la tribu de Benjamin, etc., etc. Les gens parlaient assez facilement comme ça, plus que nous. Hein. Nous ne disons pas, moi, je suis Zandri, de la descendante de tel, et puis après, on parle pas comme ça, mais probablement à l'époque juive, c'était quelque chose qui était beaucoup plus courant. Donc on voit que c'était utilisé, l'importance, les généalogies servaient à des fins économiques, à des fins sociales, à des fins religieuses aussi, dans beaucoup de situations. Alors, concernant Jésus, hein, bien sûr, il y a sa généalogie aussi a été donnée. Combien de fois dans les Écritures? Deux, trois, deux fois. Une fois dans Matthieu chapitre 1, et une seconde fois dans Luc au chapitre 3 de l'Évangile de Luc. Donc on va lire la généalogie dans Matthieu chapitre 1. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, ou si vous la sautez quand vous faites votre lecture annuelle, mais on va la lire en tout cas ce soir, Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Et comme Matthieu divise sa généalogie en trois groupes de 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 de génération de David à la déportation et de la déportation à Christ. Donc, trois personnes vont nous lire, hein, comme ça, ça va pas la même personne qui va lire tous les noms difficiles. Trois personnes vont nous lire, pardon. Et donc, une personne pour la première section qui va du verset 1, on va dire jusqu'au verset 5. Une deuxième personne pour le verset 6 jusqu'au verset 11. Et une troisième du verset 12 jusqu'au verset 17. 1 à 5. Qui c'est qui veut lire 1 à 5? Charité, qui c'est qui veut lire 6 à 11? 6 à 11, rapidement, involontaire. Jean, qui c'est qui veut lire 12 à 17? 12 à 17, courageux, une courageuse? Jessie, très bien, on va comme ça. On y va, tu peux commencer. Jéconias. Voilà, très bien. Alors, bon, si vous lisez attentivement, si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il manque même des noms dans cette généalogie que donne Matthieu. Donc, Matthieu vise quelque chose de bien précis. Il y a quelques rois qui sont omis là-dedans. Et voilà, donc ce n'est pas... Et même sur le décompte des 14, parfois on trouve 13. Donc, il a voulu séparer les choses ainsi à dessein. On va revenir là-dessus. Si on regarde, on ne va pas la lire, mais si on regarde dans Luc, on va essayer de voir quelle différence il y a. Parce qu'il y a des différences dans la généalogie que donne Matthieu et dans celle que donne Luc. Il y a une différence qui saute aux yeux et que l'on peut voir. Si on regarde dans Luc chapitre 3 et au verset 23, je lis, il dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, le fils de Joseph ». Fils d'Élie, fils de Matha, etc., etc. Et on termine au verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors, quelle différence vous voyez tout de suite ici, dans ces deux généalogies? Oui, il y en a une, celle de Matthieu, elle est comment? On pourrait dire, elle est descendante, et puis celle de Luc, elle est montante, elle part de Jésus et monte jusqu'à Adam, et puis celle de Matthieu, elle descend. Qu'est-ce qu'il y aura comme autre différence? Luc va jusqu'où? Jusqu'à Adam, il monte jusqu'à Adam, fils de Dieu, et Matthieu, il fait quoi? Matthieu, il part de qui? Il part d'Abraham, Abraham, fils de David, etc., et puis il descend. Est-ce qu'il y a d'autres différences, si vous lisez, on ne va pas le lire, mais si vous lisez, il y a des différences dans les noms qui sont cités. Mais il y a une grosse différence quelque part, et elle va être intéressante ici. Si vous regardez dans Luc chapitre 3 qu'on a lu, Luc chapitre 3 et au verset, verset 31, il est question du fils de Méla, fils de Ména, fils de Matha, fils de Nathan, fils de David. Donc on aurait pu dire, David engendra Nathan. Si vous lisez dans Matthieu, qu'est-ce qu'il dit ? Reprenez Matthieu au chapitre 1 et au verset 6, il dit « Le roi David engendra Salomon ». D'accord ? Et qui est un autre... Donc Salomon, c'est un fils de David, et Nathan était aussi un autre fils de David. Vous voyez que Luc donne une généalogie qui va bien jusqu'à David, mais qui ne passe pas par Salomon, tandis que Matthieu donne une généalogie, lui, qui passe par Salomon. Voilà. Matthieu, donc, il sépare, lui, les généalogies en trois groupes. Luc ne fait pas ça. Et certains commentateurs font remarquer que, en fait, ce que fait Matthieu par rapport à Luc, Matthieu retrace plutôt la généalogie, on pourrait dire, pour montrer le droit de Christ à la royauté. Et puis, Luc, eh bien, trace la généalogie qui passe plutôt par Marie. Parce que quand il dit ici, dans l'évangile de Luc, que Joseph était fils de Élie, ici, il ne dit pas la même chose. Dans l'évangile de Matthieu, il dit que Joseph était fils de qui ? Si vous lisez l'évangile de Matthieu, on regarde. De qui était ? De Jacob, pas la même personne. Okay ? Et donc, on suppose que Élie, ce n'était pas le père de Joseph, mais plus, ici, le père de Marie. Parfois, c'est écrit d'une certaine manière qui montre que c'était plus le père de Marie. Donc, on remonte la généalogie par Marie. Ce que Matthieu cherche à montrer, c'est quoi ? Hein, le thème que l'on donne souvent à l'évangile de Matthieu, c'est quoi ? Vous savez qu'on donne souvent Luc, c'est Christ, Marc, c'est Luc le serviteur, hein, c'est ça, je crois. Hein. Jean, c'est... Luc, c'est fils de l'homme. Jean, c'est fils de Dieu. Et puis, l'évangile de Matthieu, c'est Christ le roi. Hein, le roi qui vient. Voici ton roi vient monter sur une ânesse. Donc, c'est un peu la vision qu'a Matthieu quand il écrit son évangile. Et il écrit à destination des Juifs, hein, pour prouver que Jésus est bien le roi qui a été promis, le descendant de David. Donc, Matthieu cherche à valider, on pourrait dire, la prétention royale de Jésus. Il peut prétendre au trône de David, et puis il donne donc sa généalogie pour montrer d'où il vient. Jésus n'a pas cherché à usurper ce droit, cette fonction, mais il est roi, et il va prouver par la généalogie que Jésus est le roi légitime au trône de David. Il a le droit à la royauté par le lien qu'il a avec Joseph. Alors, est-ce que Jésus est fils de Joseph ? Non. Est-ce que Jésus est le descendant direct de Joseph ? Non. D'accord ? C'est le fils adoptif. D'accord ? Et quand on lit la généalogie, on pourrait se dire, bon, mais à quel titre peut-il avoir droit à la royauté s'il n'est pas le fils légitime ? Même s'il n'était pas le fils légitime, le fait d'être le fils adoptif, hein, le père avait légitimité pour transmettre ce titre à son fils adoptif. Alors, quand Matthieu donne la généalogie, à l'époque où Jésus ou Marie était enceinte, où Jésus allait naître, si tout avait été respecté, si Israël n'était pas sous le joug de la domination romaine, s'ils avaient leur roi, qui, d'après ce que Matthieu dit là, serait le roi ? Qui serait sur le trône de David ? Avant la naissance de Jésus. D'après la généalogie qu'il donne, qui c'est qui est dans la lignée des rois ici ? Matthieu donne la lignée des rois. Il termine avec qui ? Avec Joseph. Ça aurait dû être Joseph. Hein ? Alors, on pourrait imaginer que si Jésus avait été fils de Joseph, il aurait pu prétendre, il aurait été vraiment un héritier voilà, de sang aussi en plus, hein, et qu'il pourrait être dans la lignée des rois. Le problème est que dans la généalogie de Joseph, il y a un nom qui est particulier, c'est celui de Jéconia. Regardez au verset au verset 11. Joas engendra qui ? Jéconia et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Donc Joseph est dans la lignée de Jéconia. C'est un descendant puisqu'on descend Jéconia et puis on arrive jusqu'à Joseph. Donc Joseph est dans la lignée de, c'est un descendant de Jéconia. Et si vous lisez Jérémie chapitre, alors on va lire 22 verset 34 à 30, je vais vous lire ça, Jérémie, prenez Jérémie chapitre, il y a une prophétie concernant ce roi-là, Jérémie chapitre 22, Jérémie chapitre 22 et au verset 24. Et je suis vivant, dit l'Éternel, quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre la main de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi, ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas né, et là, vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia ? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix ? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas ? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Verset 30, ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme, donc Jéconia, comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Donc ça veut dire que si Jésus avait été le fils de Joseph, il ne pourrait jamais accéder au trône parce que c'est ce qui a été, que Dieu a dit par la bouche du prophète. Aucun descendant de Jéconia ne pourrait accéder au trône. Pas même Joseph, mais en supposant que les choses auraient été pareilles, dans la chair de Jéconia ne peuvent pas accéder au trône. Donc, par Joseph, si on veut, Jésus est devenu héritier, n'étant pas lui-même le fils de sang de Joseph. Il a pu le devenir, mais il n'était pas non plus le descendant direct de Joseph. Donc, la malédiction qui est prononcée sur Jéconia ne pouvait pas l'atteindre lui. Mais en même temps, Joseph pouvait lui transmettre, étant le fils adoptif, il avait le droit de lui transmettre la fonction royale, même si lui, ses descendants, lui, ne pouvaient pas accéder au trône. Mais la Bible dit, et l'Évangile le fait remarquer, que Jésus devait être de la postérité aussi de David, c'est-à-dire qu'il devait être aussi issu de la chair de David. Et on le lit dans les Évangiles, Jésus, dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul parle de l'Évangile de Jésus, il dit qu'il concerne son fils né de la postérité de David. Il est né de la postérité de David, donc il faut cette naissance selon David. Et c'est ce qu'apporte Marie. Alors, et on le lit dans l'évangile de Luc, on a dit que c'est une généalogie qui vient par Marie. Marie aussi était descendante de David, d'accord, on le sait. Elle aussi est allée se faire inscrire avec Joseph dans la ville de David. Donc, elle a donné cette hérédité, cette descendance davidique à Jésus. Seulement, Marie n'était pas dans la lignée de Salomon. Donc, elle ne pouvait pas donner la lignée vraiment royale. Or, Joseph, lui, il était. Donc, de David, il y a quelque part, quand on regarde l'évangile de Matthieu et puis de Luc, c'est comme s'il y avait deux lignées qui partent. D'une part, Salomon, qui va jusqu'à Joseph, qui transmet, si vous voulez, la royauté le titre de roi, le droit d'être roi à Jésus. Et puis, de l'autre côté, David, Nathan, qui passe par la lignée, qui va jusqu'à Marie et qui apporte à Jésus cette lignée de sang, si j'ose dire. Hein. Il est vraiment de la postérité de David. Donc, il est vraiment, l'évangile montre ici qu'il est vraiment le Messie qui devait venir. Et on pourrait dire, après lui, personne d'autre ne pouvait prétendre au trône de David. Parce que, pourquoi il ne pouvait pas? Parce que ben, Joseph, il ne pouvait plus lui-même déjà à cause de la malédiction qui reposait sur Jéconia. Et aucun autre fils de Joseph, même les autres fils qu'il a eus avec Marie, ne pouvait non plus prétendre à la lignée, à la royauté, parce que bon, ben, ils sont sous le coup de la malédiction qui avait été prononcée, d'accord. Et les autres, même si Marie avait d'autres enfants, elle pourrait pas leur donner non plus cette lignée-là, parce qu'elle n'était pas de la lignée de Salomon. Il fallait être de la lignée de Salomon pour apporter la royauté. Donc, on voit que ce que Dieu a fait en faisant que Jésus naisse de manière, soit conçu de manière virginale, miraculeuse, d'accord, il a contourné la malédiction qui reposait sur la lignée de Jéconia, donc la lignée de Joseph, dans cette descendance, pour permettre à Joseph de transmettre, c'est pas, cette royauté à Jésus, et à Marie de transmettre cette postérité selon la chair, si j'ose dire, hein, ainsi à Jésus. Donc lui est vrai, et Matthieu montre, en tout cas lui dans l'évangile de Matthieu, que Jésus est vraiment le Messie qui doit venir. Il ne peut pas en avoir d'autres après lui, d'accord ? C'est bloqué après lui, c'est fini, hein ? Il est le seul, n'est-ce pas ? Et puis dans l'évangile de Luc, on voit bien que l'ange dit à Marie que son règne sera un règne éternel, hein, qui ne s'éteindra point. Et donc, c'est la démonstration, cette généalogie, si vous voulez, elle est là pour montrer, pour faire la preuve que Jésus est bien le Messie qui a été annoncé et qu'on peut, même pas en attendre un autre. Même pas en attendre un autre, c'est impossible. Hein. Et tous les Juifs qui attendent un autre Messie, c'est impossible qu'il y en ait un autre, de par la manière avec laquelle Matthieu a écrit les choses. Il montre qu'il était, Jésus était vraiment le seul qui puisse accomplir, qui soit le descendant de David, selon la chair, hein, parce qu'il le dit quand même, hein, à la fin au verset 17, et puis qu'il soit en même temps de la lignée royale par Joseph, même si cette hérédité royale a été transmise légalement. Joseph était le père légal de Jésus, et à ce titre, il pouvait lui transmettre cette lignée royale. Donc, une généalogie, pourquoi une généalogie pour Jésus? Une généalogie, pour montrer le droit de Jésus à revendiquer d'être le Messie. Il est le seul héritier possible, ce que Matthieu montre. Il est le dernier héritier possible et il est l'héritier éternel. Il est celui dont le règne ne s'éteindra point. Et quand on voit ça, on dit quel plan merveilleux le Seigneur a mis en œuvre, hein, pour pouvoir nous sauver. Quelle sagesse et quelle providence de Dieu qui contrôle toutes choses, hein, même quand une malédiction est prononcée quelque part, eh bien, il sait comment agir pour pouvoir, même avec ces personnes qui sont dans la lignée de cette malédiction, eh bien, faire naître le Messie qui serait notre sauveur. Donc, je crois que ça, c'est la grande chose que Matthieu montre. Mais on peut tirer rapidement quelques autres enseignements aussi de la généalogie de Jésus. Matthieu commence par situer, si on lit sa généalogie, Jésus en rapport avec qui? Abraham et David. Et qu'est-ce que Dieu avait fait à Abraham? Qu'est-ce qu'il avait fait à David? Une promesse. Donc la promesse à Abraham, on la trouve où? Genèse, il y a eu plusieurs fois, mais on la trouve en Genèse chapitre 12. La promesse à David, c'est en 2 Samuel chapitre 7. Hein, vous vous rappelez, lorsque David avait voulu construire une maison à l'Éternel, et puis l'Éternel lui a dit, c'est pas toi qui me construiras une maison, etc. Et puis il a fait une promesse sur son fils, sur le fait qu'il y aura toujours un descendant sur son trône. Et c'est la promesse que Dieu fait. Alors quand on la lit, on pense à Salomon et à tous les descendants physiques de David. Mais quand on a toute la révélation, on comprend bien qu'il annonçait celui qui est le Messie, le roi éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que cette généalogie montre comment Dieu réalise ses promesses. Ici, hein. C'est déjà le premier contact avec Abraham et David et comment Dieu tient ses promesses et comment il est, même si elles ne viennent pas tout de suite, même si elles prennent du temps dans l'histoire, mais il les accomplit certainement. Ça, c'est une chose que l'on peut voir de cette généalogie. Une autre chose que je trouve aussi, c'est que si vous lisez toutes les personnes qui sont citées dans cette généalogie, même si vous prenez Abraham, si vous prenez David, est-ce que ce sont des personnes qui sont parfaites ? Vous les prenez pratiquement toutes et on pourrait écrire des choses négatives sur leur vie. Abraham, il a menti. David, il a fait quoi, David ? Il a tué, il a commis l'adultère, quand on regarde leur passé. Et quand on regarde beaucoup d'autres rois, même Manassé est cité. Manassé, vous vous rappelez, Manassé, c'était le fils de Ézéchias. Ézéchias était un bon roi, mais Manassé, il a fait vraiment que des choses mauvaises, quoi. Et puis on lit, il y a aussi, on trouve quelques autres personnes. Quelles sont les autres personnes que l'on trouve dans l'histoire ? On trouve des femmes aussi. Alors ça c'était pas commun de trouver des femmes dans les généalogies. Hein. Dans celle de Luc, il n'y en a pas, je crois. Hein. Mais dans celle de Matthieu, on trouve des femmes. Pas pour dire telle femme a engendré telle autre personne, mais elles sont quand même citées dans la généalogie. Et donc, qu'est-ce que cela dit ? Cela dit que met en évidence que notre profonde nature corrompue est mauvaise. Même quand on parle de la lignée de Christ, humaine de Christ, chaque fois qu'on voit les hommes, on cite les hommes, voilà, ce sont des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et cela met en évidence notre profonde nature pécheresse. Ça, c'est probablement pour cela hein, qu'on voit plus loin dans ce que l'ange va dire à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de quoi ? De ses péchés, le peuple de Dieu, tous ceux qui sont cités là, plus nous qui venons derrière, eh bien nous sommes marqués par le péché. Et cette généalogie met cela en évidence. Met en évidence aussi que tous ces rois qui sont cités, par exemple ici, hein, eh bien n'étaient pas des bons rois et qu'on avait besoin d'un véritable roi, le roi des rois et celui qui est annoncé donc à la fin de cette généalogie. C'est le seul vrai roi. Hein. David a été parmi les plus bons rois que les hommes aient eu, mais il était quand même pas parfait. Et on avait besoin d'un roi qui soit vraiment le roi parfait. Et cette généalogie met cela en évidence. Elle met aussi, je crois, en évidence on l'a dit ici, hein, la fidélité de Dieu. Celui qui n'oublie pas son alliance. Matthieu dit 14 générations d'un tel à un tel, 14 générations de David à la déportation, 14 générations de la déportation à Christ. Ça fait beaucoup de générations. Mais ça montre en même temps que dans toutes ces générations-là, Dieu a continué à suivre son plan jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et je crois que ça montre combien Dieu est fidèle dans ses promesses. Même si les générations passent, lui, il n'oublie pas sa promesse. Et le propre des hommes, c'est de se moquer. Hein, 2 Pierre le dit, hein, je crois que dans 2 Pierre il dit « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que nos pères sont morts, les choses demeurent comme auparavant. » Et les hommes aujourd'hui disent la même chose. Ça fait 2000 ans que vous dites que Jésus-Christ est venu et qu'il va revenir. Où est-ce qu'il est revenu ? Il ne reviendra pas. Et puis il n'est jamais venu, etc. On remet en doute toutes ces choses parce que le temps passe, parce que les générations filent. Okay. Mais Matthieu montre à travers cela, même s'il y a eu 14 générations, il dit ainsi, bien, ça fait combien en tout ? 42 2, très bien. Eh bien, il dit, Dieu accomplit quand même sa promesse. Il ne l'oublie pas. Il fait les choses au temps marqué, au temps voulu. Et de même, donc, cela nous dit que Christ aussi reviendra. Il reviendra, il manifestera aussi sa fidélité à ses promesses. Il reviendra pour prendre ce qui lui appartiennent, hein, ceux qui seront ses descendants, greffés à son arbre, on pourrait dire, hein, généalogique aussi, hein, ceux qui sont à lui, ceux qui sont les fils d'Abraham par la foi. Et puis aussi, une autre chose qui est mise en évidence, je crois, dans cette généalogie, c'est la grâce de Dieu qui s'étend sur tous les hommes. La grâce de Dieu qui s'étend sur tous les hommes. Qui trouve-t-on, on l'a déjà dit, dans ces ascendants de Jésus, des hommes pécheurs, bien sûr, mais aussi des femmes pécheresses. On ne trouve pas Sarah, les femmes qu'on a, voilà, qui étaient des grandes figures de l'Ancien Testament, mais il est question de qui ? De Tamar, de Rahab, de Ruth et de Bathsheba. Et toutes sont liées à des histoires un peu étranges, n'est-ce pas ? L'histoire de Ruth, c'est une Moabite. Les Moabites sont les descendants de qui ? De Lot, hein. C'était l'inceste qu'il y a eu entre Lot et ses filles, qui a donné un peuple qu'on appelait les Moabites. Et puis la Bible disait même qu'aucun Moabite n'entrera dans l'assemblée de l'Éternel. Hein. Et puis Rahab, c'était qui Rahab ? Une prostituée, d'accord ? Qui c'est qu'il y avait encore ? Tamar. Tamar, c'était la belle-fille de Judas qui s'est déguisée en prostituée pour avoir un enfant avec Judas. D'accord, cet enfant, il y en a un qui s'appelait comment ? Pérets. Et Pérets, on le retrouve dans le livre de Ruth, qui était l'arrière-arrière-grand-parent de David. Hein. D'accord ? Rahab, qui était aussi l'ascendant de qui ? De Boaz. Hein, de Boaz. On voit tout cela. Dieu a utilisé toutes ces personnes. Et c'est une chose de retrouver ces noms-là dans la généalogie de Christ. Ça montre vraiment la grâce de Dieu. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, mais non plus entre les juifs et les païens. Ce sont des femmes qui ne sont pas des juives ici. Hein. Toutes ces choses montrent vraiment la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus, il est venu quoi, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et l'ange avait dit à Joseph, je le rappelle, tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je trouve ça encourageant de lire cette généalogie, de voir toutes ces personnes, tout ce qu'elles ont pu faire. Et qu'elles sont quand même, elles peuvent être quand même dans la lignée de Christ. Et par la foi, ceux qui reçoivent Christ, peu importe ce qu'a pu être leur passé, leur vie, ils peuvent être aussi dans la descendance de Christ. Enfants, co-héritiers avec Christ, enfants de Dieu par la foi. Ils sont les descendants aussi d'Abraham par la foi. Et tout cela grâce à ce que Christ a fait à la croix du calvaire. Je crois que cela nous pousse à louer Dieu, de nous donner au moins cette généalogie, hein, qu'on puisse essayer de comprendre, de lire, d'approfondir, qu'on peut s'émerveiller devant l'œuvre de Christ, tout ce qu'il a mis en œuvre pour que le Sauveur puisse naître juste, saint et sans péché, tout en lui donnant, tout en lui faisant prendre la nature humaine, mais pas la nature pécheresse, tout en lui faisant prendre la nature humaine, de manière à ce qu'il puisse s'identifier à nous et qu'on puisse être sauvé par celui qui est l'homme-Dieu. C'est une grâce, c'est une joie de voir ce que Dieu fait. Je crois que cela doit nous émerveiller, doit nous plonger constamment dans la reconnaissance à l'égard de notre grand Dieu et Sauveur. Voilà, on va s'arrêter là pour cette méditation et puis on va prendre quelques sujets de prière.